Chapitre 9, le cinquième risque.
50 nuances d'or gris.
Et oui, la santé est un marché d'avenir. Il n'y a qu'à voir les projections de vieillissement de la population pour s'en convaincre. Actuellement, environ 20% de la population française a plus de 75 ans, dont la moitié, plus de 75 ans. En 2040, une personne sur quatre aura plus de 65 ans. Or, le vieillissement augmente la prévalence de certaines maladies neurodégénératives, de cancers, de maladies cardiovasculaires. Il est surtout à l'origine d'une augmentation de la fragilité et de la dépendance. C'est ce qu'on appelle le cinquième risque, et non pas le cinquième élément. C'est l'occasion de boire ma liqueur de vieux garçon. De façon. Oui, souviens-toi, le cinquième risque, mon ami. Ça pique ?
Oui.
Les quatre premiers risques définissent les quatre branches historiques de la sécu. Maladie, maternité, invalidité, décès, famille, dont handicap et logement, accident du travail et maladie professionnelle, et enfin, retraite, vieillesse et veuvage. Mais devant le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, l'idée de constituer un cinquième risque, que l'on appelle couramment risque dépendance ou risque perte d'autonomie, a progressivement germé dans les années 2000. La loi du 30 juin 2004, consécutivement à la canicule, comme je te l'ai dit tantôt, crée officiellement la cinquième branche pour lutter contre le risque de dépendance et pallier les conséquences d'une perte d'autonomie sur la vie des personnes âgées ou en situation de handicap. Et c'est la Caisse nationale de solidarité autonomie, la CNSA, qui gère la crèmerie.
Donc, on a un risque, la perte d'autonomie, et une caisse pour s'en occuper, la CNSA. Mmh. Concrètement, elle fonctionne comment et elle fait quoi ?
La CNSA, elle reçoit un financement de l'assurance maladie et de l'État et dispose d'un fonds propre qu'elle gère toute seule.
De l'assurance maladie ? Une caisse donne à une autre caisse ?
Oui, en quelque sorte. La CNSA est chargée du fonctionnement des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées. Bon, maintenant, on dirait en situation de handicap. Avant, c'était l'assurance maladie qui était chargée de ça. Donc, pour compenser le fait que la CNSA fasse une partie du travail qui a été fait par l'assurance maladie, cette dernière lui verse de l'argent, 17,7 milliards d'euros en 2015. L'État, pour la même année, a participé à hauteur de 4,5 milliards.
Oh, sacré budget !
Ouais, mais il faut regarder que ça permet de financer. En France, il y a 16 400 établissements et services dits médico-sociaux qui accompagnent le quasi-million de personnes handicapées ou âgées dépendantes. Les trois quarts de ces structures sont publiques, le quart restant privé, mais presque exclusivement à but non lucratif.
Mais c'est quoi comme établissement ? Des maisons de retraite ?
Installe-toi confortablement, mon ami. La liste des types d'établissements chargés de l'accueil des populations en situation de handicap ou âgées dépendantes est digne d'un inventaire à la Prévert. Honneur aux anciens. Les établissements les moins médicalisés que tu trouveras sont une sorte de village vacances privé pour les personnes qui se sentent plus capables de rester seules à domicile mais qui souhaitent garder un maximum d'autonomie et un cadre de vie structuré avec des activités de loisirs, un accès à une restauration collective, des personnels soignants à proximité, etc. On appelle ça des petites unités de vie, PUV. Également appelé domicile collectif, MARPA, maison d'accueil rural pour les personnes âgées, Cantou, domicile protégé, logement regroupé. Ensuite, tu trouveras les foyers logements. Là, c'est effectivement une sorte de maison de retraite pour personnes autonomes, mais qui se sentent plus d'assumer les tâches quotidiennes, lessive, ménage, cuisine. Tu vois. Quand ton autonomie est réellement affectée, tu es orienté vers des établissements plus médicalisés comme les EHPAD, établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ou quand ton état de santé nécessite un suivi permanent, tu te confies à des ULSD, unités de soins de longue durée qui sont bientôt surnommées résidences autonomie.
C'est non.
Ah oui.
Et notre argent finance aussi des structures qui s'occupent des personnes en situation de handicap.
Mmh. Alors pour qu'on se perde pas, on va commencer par les structures qui aident les personnes chez elles ou dans leur milieu de vie, école ou travail. Tu vas trouver ça fastidieux, mais dis-toi que c'est tout ça, c'est grâce à nous, alors tu peux en être fier. Pour les enfants jusqu'à 20 ans, il existe les CESAD, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile pour les enfants avec un handicap intellectuel, physique ou des troubles du comportement. Les SSAD, les services de soins et d'aide à domicile pour les personnes souffrant de polyhandicap. Et les SSEFIS, les CEFIS, services de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les sourds ou malentendants de plus de 3 ans. Et puis il y a les SAIS, les services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire pour les aveugles ou malvoyants de plus de 3 ans.
Et pour les adultes ?
Mais on retrouve les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, pour les personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou qui sont plus autonomes, et les personnes de moins de 60 ans qui ont un handicap ou une maladie chronique. Il y a les SPASAD, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, les SAMSA, je sais que tu vas dire les SAMSA du démon, SAMSA, services d'accompagnement médico-social.
Et t'en as d'autres comme ça ?
Oui, le GEM, groupe d'entraide okay. mutuelle pour les personnes souffrant d'un handicap sur le plan psychologique, les SAVC, les SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale pour les déficients intellectuels et quelques systèmes d'accueil temporaire.
Ok, et si les personnes souffrant d'un handicap ne peuvent plus rester à la maison ou n'ont plus de maison ?
Ben, il y a pour les enfants des établissements d'éducation spéciale, sorte d'école spécialisée avec internat ou externat, les IME, les instituts médico-éducatifs pour les enfants avec déficience intellectuelle, les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques pour les enfants avec des troubles du comportement mais pas de déficience intellectuelle, les IEM, instituts d'éducation motrice lorsqu'il y a un handicap physique important, ou encore des établissements d'éducation sensorielle pour les jeunes aveugles ou malvoyants et pour les jeunes sourds ou malvoyants. Pour les adultes, on trouve les FAM, les foyers d'accueil médicalisés, ou les MAS, maisons d'accueil spécialisées, lorsque les personnes sont très en situation de handicap. Les foyers de vie, pour les travailleurs en situation de handicap. Les CRP, centres de rééducation professionnelle, qui proposent des formations. Et les ESAT, anciens CAT, établissements et services d'aide par le travail, qui sont des structures de travail adaptées, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Ensuite, tu as les établissements pour la prévention et le dépistage.
J'en meurs, pitié, j'en peux plus. N'empêche. Franchement, ça fait un bien fou de savoir qu'il y a tout ça. J'étais loin de me douter. Tu parlais de la symbolique de nos cotisations à l'assurance maladie. Je trouve qu'on est en plein dedans.
Au fond, un cotisant, c'est un peu un cow-boy quoi, qui part dans le soleil couchant après avoir sauvé des vies.
Bon, et à part l'assurance maladie, tu disais qu'il y a l'État et les fonds propres pour financer la CNSA.
Ouais, au nom de la solidarité nationale, l'État file à la CNSA une partie de la CSG, 1,3 milliard en 2015, ainsi qu'une partie des contributions des droits de consommation sur les tabacs, le DCT, pour environ 0,2 milliard.
Merci les fumeurs! Bon, ok, je plaisante, mais...
Bon, pour le reste de son budget, la CNSA se compose de deux choses. La fameuse contribution solidarité autonomie, tu te souviens, la CSA, la journée de solidarité, fériée, travaillée initialement le lundi de Pentecôte. En 2015, elle a rapporté 2,3 milliards d'euros à la CNSA. Et puis la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA.
La CASA, c'est encore un truc en plus?
Ouais, c'est la même chose que la CSA. Si ce n'est qu'elle s'applique aux pensions des retraités, alors que la CSA ne s'applique qu'aux revenus du travail. La CASA, ça représente tout de même 720,9 millions récoltés en 2015 pour la CNSA.
Ok, résumons. L'argent de l'assurance maladie sert à financer les structures, au nom étrange. Ça, je pense que j'ai bien compris. Mais l'argent des CSA, CASA et de l'État, ils financent quoi?
Alors une partie vient compléter l'argent de l'assurance maladie pour financer les établissements. Le reste est principalement confié aux conseils départementaux pour qu'ils financent le fonctionnement des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, 68,24 millions en 2015, ou l'aide à domicile, 25,7 millions à peu près en 2015 aussi. Et surtout, qu'ils attribuent les aides individuelles en faveur des personnes âgées, allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, 1,76 milliards, et en faveur des personnes en situation de handicap, prestation de compensation du handicap, PCH. 554 et des brouettes millions en 2015.
Ok, mais c'est quoi ces aides exactement?
Ben alors l'APA, si tu as plus de 60 ans et que tu as perdu en autonomie, on te donne de l'argent qui te permet de financer des aides pour vivre mieux à domicile ou pour financer ta place dans un établissement. L'autonomie s'évalue avec une grille Agir, autonomie gérontologique, groupe iso-ressources, qui évalue l'autonomie de la personne pour 10 activités, pour 10 activités, communiquer verbalement et ou pas, agir et se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises par la société, se repérer dans l'espace et le temps, faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, se servir à manger, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, tu vois, bon, se lever, se coucher, s'asseoir, passer de l'une de ces trois positions à une autre, se déplacer à l'intérieur du lieu de vie, se déplacer en dehors du lieu de vie, utiliser un moyen de communication à distance, téléphone, alarme, sonnette, bon, dans le but d'alerter en cas de besoin. On pourrait s'étonner qu'on se cantonne à ces points-là en même temps. D'autant qu'évaluer l'incapacité d'un individu à faire une tâche ne dit pas grand-chose sur le besoin d'aide ressenti, et qu'en outre, l'environnement, la présence d'un aidant, l'adaptation de l'appartement, etc. n'est pas pris en compte dans l'évaluation.
Ouais, je trouve que la dépendance a l'air d'être une catégorie morale pleine de trucs.
Mais elle a l'avantage d'être adaptée à adoptée à toute l'échelle nationale. Selon ton classement, selon que tu es à domicile ou en établissement et selon tes revenus, le montant de ton aide changera. Pour la PCH, c'est le même mécanisme mais sans condition de ressources. Selon le degré d'autonomie de la personne, une somme plus ou moins élevée lui est versée pour financer des aides humaines, techniques, animalières, des adaptations de domicile ou du travail.
C'est classe ça. Ça me plaît. J'irais plus volontiers travailler ma journée de solidarité, moi.
Ouais, je trouve aussi que ça a de la gueule, mais c'est pas sans poser certains problèmes éthiques. Regarde, tu es jeune, beau, et tu étudies à l'aide du service public, ce qui te prépare au monde du travail. Ensuite, bon comme du bon pain, tu iras bosser et tu cotiseras pour tes aînés. Puis tu deviendras vieux, car comme tu sais, on ne naît pas vieux, on le devient. Et il ne te restera plus qu'à espérer que les jeunes de demain cotisent pour toi. Alors ça crée deux situations morales troublantes. La première, c'est, est-ce normal d'endetter les jeunes à l'avance? L'enfant qui naît aujourd'hui aura les cotisations de ses parents sur les bras. La seconde, tu payes pour les uns aujourd'hui en espérant que d'autres en feront de même pour toi plus tard. On pourrait voir comme un emprunt qui se rembourse avec les sous d'un autre emprunt, qui lui-même se rembourse avec les sous d'un troisième, etc. Alors ici, on a mis un tableau, évolution du ratio actif cotisant retraité. Et vers les années 60, le ratio entre retraités et cotisants était de 1 pour 4. Un retraité pour 4 cotisants. 2010, c'est passé de 1 à 1,8. Et en 2050, on présume que ce sera de 1 à 1,2. La source étant le Conseil d'orientation des retraites. Alors, tu vois, rembourser avec les sous d'un autre emprunt qui lui-même se rembourse avec les sous d'un troisième, ben, ça s'appelle une chaîne de Ponzi.
Quoi ?
Une chaîne de Ponzi, rien. Je te fais une description schématique. Imaginons qu'un Lascar te propose un investissement non pas à 10 ou à 20, mais à 100% d'intérêt. Tu vois, genre le rêve des spéculateurs. Il dit que si tu lui confies 1000 euros, bah, il t'en rend 2000. Et tout ça, sans risque aucun. Ah, bien entendu, toi, tu fonces, tu te dis, bon, ouais, ah. Et d'emblée, tu reçois tes intérêts de 1000 euros. Boum, la première année, tout baigne. Puis tu te répètes le matin, tu te dis, quel malin suis-je d'avoir placé là mon argent. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu dois tes 1000 euros d'intérêt, non au travail, si encore ça en est un, de ton pognon, mais au fait que le Lascar en question te paye de l'argent déposé par d'autres spéculateurs comme toi, qui eux-mêmes recevront de plaisants intérêts, qui ne seront en fin de compte que de l'argent déposé par une troisième salve de spéculateurs, et ainsi de suite. Ce système démarre facilement si le Lascar a une offre alléchante comme le miel. On l'a vu, la plupart des gens qui placent leur pognon ne regardent que les taux d'intérêt, pas la misère de ceux-ci, dont ceux-ci se nourrissent. Les premiers dividendes versés vont convaincre les premiers clients, des dollars plein les yeux que M. Lascar est de très haute tenue, et s'en suivra une publicité majeure attirant de nouvelles mouches à miel. Et ce système frauduleux continue tant qu'il y a des mouches à miel. À chaque étape, Lascar prend ses commissions, bien sûr, qu'il lui en voudrait, et qu'il rapporte des fortunes à ses clients. Mais malheur si la chaîne se brise. Si en cas de crise financière, par exemple, une masse critique de clients tente de retirer son pognon d'un seul coup, ses liquidités, comme on dit, et bien là, le poteau rose apparaît, en mode boule de neige, tout s'effondre, ne sentir que Lascar, bien évidemment, et puis quelques sous Lascar qui ont retiré leur liquidité en premier, et les autres.
Et que les derniers arrivants sont spoliés et roulés dans la farine.
En un mot commençant, oui, ils ont été victimes d'une chaîne de Ponzi du nom d'un escroc italien illustre pour avoir mis en place une cavalerie de ce genre à Boston dans les années 1920. Mais il y en a eu, il y en aura d'autres, des arnaques de ce genre. Sur le plan mathématique, ça se formalise, mais ça arrache un peu. Tu vois ce que ça donne ?
Non, sans façon, merci.
Bon, ok. En tout cas, c'est exactement comme cela qu'a procédé le célèbre Madoff. Tu te rappelles de Bernard Madoff, jusqu'en 2008. Il y a une très bonne série, d'ailleurs, sur le sujet. Et personne ne s'en serait rendu compte s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes. Un paquet d'investisseurs flippés ont voulu retirer leurs espèces sonnantes et trébuchantes, et Madoff, il n'a pas pu rembourser.
Mais pauvre Jean.
Alors, bon, tu vois, là, ça, c'est bon. Au début, tu as envie de les plaindre, mais en même temps, guetter des taux sans savoir combien de souffrance ou de sueur est versée pour les obtenir, c'est quand même un peu du vampirisme. La plupart des spéculateurs ne regardent même pas comment les boîtes font leurs bénéfices. Je te l'ai dit, mais je veux bien crier s'il le faut. Parfois, elles spéculent sur les céréales, en gros, elles misent sur la famine à venir, parfois sur la guerre, parfois sur les réductions de dépenses de sécurité des travailleurs. Nous sommes gentils, mettons ça sur le compte de l'ignorance, mais s'ils se rendaient compte de quelle souffrance leurs produits financiers sont gonflés, les spéculateurs n'oseraient probablement plus se regarder dans la glace le matin.
Au moins, une fois qu'ils auront lu ça, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas.
Et encore, là, ils ne perdent que leur argent. Il y a des cas bien plus graves, des cas où l'on perd l'argent de tout petits épargnants. Si tu as l'âme sensible, ne lis pas, sinon je vais te terminer au sol avec l'Albanie.
C'est où j'en suis ?
Ben, en 91, de dictature communiste totalement fermée, l'Albanie s'ouvre à l'extérieur et les performances macroéconomiques sur la période 93-95 deviennent assez stupéfiantes, environ 10% de croissance par an et une inflation à un seul chiffre.
Question à la con. Tu peux me dire ce que c'est exactement la croissance ?
Ah, il faudrait un livre à part entière. Quoi. Mais bon, en gros, pour faire simple et sans entrer dans les querelles de clocher, la croissance économique, c'est la variation de la production de biens et de services dans une économie sur un temps donné. Tu vas me dire qu'il faut définir ce que sont les biens et les services, mais ça prendrait trop de place. Bon, en pratique, l'indicateur le plus utilisé pour le mesurer est le PIB, le produit intérieur brut, qui est mesuré en volume ou à prix constant pour corriger les effets de l'inflation. Le taux de croissance, lui, est le taux de variation du PIB. Dans le modèle classique, on utilise la croissance du PIB par habitant comme indicateur de l'accroissement de la richesse individuelle, ce qui est étrangement assimilé au niveau de vie. Étrangement parce que dans ce type de mesure, il y a les indicateurs indépendants qui disparaissent comme l'écologie, les liens sociaux, le travail domestique et qui comptent pourtant dans le niveau de vie. Sur ce dernier point, Alfred Sauville, démographe, faisait une vanne. Il suffit de se marier avec son cuisinier ou sa cuisinière pour faire baisser le PIB.
Ok, mais c'est un humour étrange quand même, les démographes. Hein.
Ce qui veut dire, c'est que si avant, tu payais quelqu'un, bon, comme toujours, souvent des femmes d'ailleurs, pour te faire à manger, le ménage, laver tes fringues, et que tu décides de l'épouser, les tâches seront toujours réalisées, mais cette fois, sans transaction financière, ils sortiront donc du calcul pour le PIB, qui se verra ainsi diminuer. Bon, c'est l'éternelle histoire de l'exploitation financière des femmes. Retour à l'Albanie. Festival des bonimenteurs chez 17 institutions bancaires un peu douteuses qui s'entretuent pour collecter les dépôts de braves petites gens. Des promesses incroyables, du style des taux de rendement annoncés de 8 à 10% par mois, avec une inflation mensuelle inférieure à 2%. Autant dire le rêve du petit épargnant sans morale. Tout le monde a cassé le cochonnet et misé ses économies. Et en 97, c'est la faillite.
les gens ne sont pas méfiés.
J'aime bien quand tu t'écarquilles tes yeux comme ça. Bon, pour cette immense arnaque, trois ingrédients. Des banquiers véreux, un État qui ne régule plus rien, et surtout des épargnants, toi et moi, qui ne pigent rien au risque qu'ils prennent, n'ont aucune idée de ce qu'ils cautionnent et font confiance aux promesses des banquiers.
Il n'y a pas d'instance internationale pour éviter ça?
Ah si, bah c'est le FMI, le Fonds Monétaire International, dont le mode de fonctionnement est tellement discutable que d'aucuns s'amusent à renommer l'institution le Fonds Mafieux International. C'est un humour particulier. Tu connais au moins l'un de ses anciens directeurs, Dominique Strauss-Kahn, qui s'est rendu assez célèbre en 2011 dans un hôtel new-yorkais.
Oui. Bon, je comprends où tu veux en venir. Il y a des spéculateurs qu'on ne va pas plaindre. Il y a des épargnants, ouvriers, paysans qui ne connaissent rien à la machine et qui se font bourrer le mou par des banquiers. Mais au fait, pourquoi tu t'appesantis sur ton Ponzi, là?
Mais parce que notre système de retraite a des aspects ponziens.
Comment ça?
Bah, ça ressemble un peu au système « je paye Paul avec le pognon de pierre ». Tu vois. Si les travailleurs arrêtaient de cotiser, les retraités n'auraient plus qu'à aller dans la rue faire la manche. Tu vois. Si le système fonctionne, c'est par une sorte d'obligation d'y adhérer pour les vivants, mais aussi pour les enfants à naître.
Tu veux dire que les enfants naissent avec une dette déjà contractée?
Ben, ma foi, c'est vrai. En outre, pour que les retraites par répartition ne s'effondrent pas, il faudrait que l'État garantisse le renouvellement des générations, ce qui n'est pas le cas. Les gens sont libres de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir un seul.
Ah, c'est marrant. On faisait des enfants au XVIIIe siècle pour avoir des bras au champ, au XIXe siècle pour peupler bataillons et usines, et au XXIe pour avoir une retraite.
Il y a un peu de ça. Hein. Certains appellent ça le théorème de Sauvy, Alfred, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Nous, je cite, hein, « Nous ne préparons pas nos retraites par répartition en cotisant pour nos aînés, mais en élevant des enfants. » Fin de citation. À titre de comparaison, il y avait 4,14 cotisants en 1960 pour un pensionné. En 1970, ça baisse à 3,80. On passe à 2,68 en 80. En 80. Et en 1,88, 1,88 en 90 et 1,59 en 2000. Pourtant, non seulement c'est assez logique, mais en outre, bah, c'est même pas un vrai problème. Logique parce que quand on naît, on jouit de biens publics qu'on n'a pas mérités, des biens publics qu'on doit bien regarder de près en grande partie à nos politiques coloniales des 5 derniers siècles. Bon, je radote, je te l'ai dit, mais je m'en fous. Pardon aux anciens, pardon aux ancêtres des camarades africains ou haïtiens. Ou haïtiens, on vous a bien pelé le lion. C'est donc une bonne raison d'accueillir vos descendants et les soigner chez nous, je trouve. Moi.
Ouais, mais pourtant, c'est quand même pas toi qui as pillé Haïti. Et celui qui vient en France n'est pas celui qui a été spolié.
Ah, assurément, c'est justifié de ne pas endosser directement les responsabilités de ses aïeux, qu'ils soient Hitler ou l'abbé Pierre.
Tu admettras qu'avoir pour parent l'abbé Pierre, c'est assez peu probable.
J'admets, les abbés ne sont pas réputés pour leur descendance. Je n'ai pas la responsabilité de mes anciens, certes, mais j'ai grandi avec des écoles et des biens publics, et pas mon pote guinéen ou malgache. Il a payé le prix du passé, et moi bénéficie d'avantages que je n'ai pas mérité. À ce titre, je lui en dois bien une aujourd'hui de main tendue, tu vois. C'est pas un vrai problème, de toute façon, regarde. Nous n'avons jamais autant produit de richesse qu'aujourd'hui. Donc on devrait jouir des bienfaits de tout cela. Or, une bonne partie de cette richesse est captée, si on n'impose pas de limite à la fortune, par des milliardaires, par des individus qui, en outre, ne s'acquittent que très peu de leurs impôts en proportion de ce qu'ils gagnent. Alors, je sais que tu aimes les chiffres, alors en voilà deux. Le premier, tu prends Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Michael Bloomberg. À eux, 8, ils détiennent autant que la moitié de la population mondiale. 3 milliards 600 millions de personnes.
J'en trouve de ma chaise.
Ben, le deuxième, la richesse mondiale s'évalue mal. On est bien d'accord, tu trouveras pas de chiffres corrects, parce que les rapports là-dessus sont faits par des banques qui vont compter tout ce qui se possède, se vend, s'achète, mais pas mesurer du tout le bien public, les relations entre les gens, le capital symbolique, et tant d'autres sujets. Combien vaudrait notre amitié, par exemple? Ça n'a pas de prix, notre amitié. N'empêche, même si j'ai assez peu confiance dans les indicateurs de banque, qui plus est suisse, un rapport qui sort chaque année appelé Global Wealth, richesse globale, ça veut dire en anglais, montre que la richesse mondiale a plus que doublé depuis l'an 2000. Et le nombre de milliardaires augmente. Il a encore augmenté pendant la période Covid. Hein. Et ils sont de plus en plus riches. Alors, rêve 5 secondes qu'on limite un jour les revenus des personnes à, disons, un SMIC mensuel brut par jour. C'est quand même, tu vois, 540 200 € par an. Et que tout ce qui est gagné au-delà tombe dans la cagnotte collective. Je mets ma main au feu que le déficit de la Sécu disparaîtrait, qu'on rembourserait notre dette sociale en deux coups de cuillère à peau, et même que le régime des retraites s'équilibrerait avec un âge légal à 60 ans, voire moins pour les professions pénibles, afin que l'ouvrier qui a trimé au marteau piqueur sous le cagnard puisse se la couler douce jusqu'à sa mort.
Mais Larry Charles, tu ne penses pas que c'est la liqueur là qui cogne sur la caboche?
Bon, c'est vrai, rien ne serait aussi simple, je nuance ce que j'ai dit, mais bon, je suis enthousiaste, tu connais.
Non mais fils de l'abbé Pierre là, franchement.